journal, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. C'est donc la rentrée pour la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Point presse ce matin, alors qu'un appel à la grève est déjà lancé par une intersyndicale du second degré. La rentrée politique de François Fillon, c'était hier. La bataille de la primaire à droite a bel et bien commencé avec les premiers coups distribués contre Nicolas Sarkozy.
Et à la une également, l'armée turque qui intensifie son offensive dans le nord de la Syrie, double cible, les djihadistes et les milices kurdes.
Les négociations entre l'Europe et les États-Unis sur un vaste traité de libre-échange, elles ont échoué selon le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel. Et à 7h12, Guillaume, dans le Billet Écho.
Marie Viennot évoquera les critiques adressées aux banques centrales. Et puis à 7h40 à 8h15, nous évoquerons le psychodrame français autour du Burkini.
Et puis une nouvelle rubrique, Guillaume.
Chaque matin à 7h15, vous retrouverez la question du jour. Et aujourd'hui, on revient sur le revenu universel, car la Finlande souhaite le tester.
Nous sommes à 3 jours de la rentrée scolaire, mais aussi à 8 mois de l'élection présidentielle. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, la dernière conférence de rentrée du quinquennat Hollande sera donc ce matin l'occasion de défendre une nouvelle fois ses réformes, celles des programmes scolaires, du CP à la 3e, mais aussi celles des collèges qui ne passent toujours pas chez les enseignants. Grève à l'appel de l'intersyndicale du second degré prévue le 8 septembre prochain, soit une semaine après le début des cours. Les créations de postes, 60 000 en 5 ans d'après la promesse du candidat Hollande en 2012. Ces créations de postes donc sont un autre motif de déception pour les enseignants, Hakim Kasmi.
Si le président de la République a en partie tenu sa promesse, le compte n'y est toujours pas. Il manque toujours 4 000 postes dans le secondaire et 7 000 dans le primaire. Françoise Popineau, la nouvelle co-secrétaire du SNUIPP.
Les pays qui réussissent dans leur système scolaire ont investi beaucoup dans l'école. Nous, on est très en dessous. On est à 20% en dessous des pays de l'OCDE. Il faut vraiment continuer à investir dans l'école. C'est ce que nous envoyons comme message à nos futurs élus.
Mais au-delà des postes, ce que dénoncent les syndicats, c'est aussi la méthode, l'aspect politique primant sur le pédagogique, puisque pas moins de 3 ministres se sont succédés rue de Grenelle. Des rythmes scolaires en passant par la réforme du collège, le monde enseignant a eu en fait le sentiment de ne pas avoir été assez consulté et entendu. Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES.
On a eu un élan au début avec la loi de refondation, effectivement, on recréait des postes, on recréait une formation des enseignants, on affirmait une priorité au premier degré en montrant que l'échec scolaire se construisait tôt. Et puis, quand on regarde 4 ans après, ensuite, on a eu une volonté avec Najat Vallaud-Belkacem d'accélérer les choses, d'imprimer sa marque, donc de faire une réforme du collège complète très très vite, sans regarder la faisabilité d'un certain nombre de dispositifs.
Najat Vallaud-Belkacem profitera sans doute de sa conférence de presse de rentrée prévue ce matin pour dissiper le doute, mais pas sûr que cela suffise, car le divorce entre la ministre et le monde enseignant est de plus en plus consommé.
Le reportage d'Hakim Kasmi pour France Culture. La primaire à droite, un vote dans 3 mois, 13 candidats déclarés, dont François Fillon. L'ancien Premier ministre a livré une charge virulente hier pour sa rentrée politique dans son fief de Sablé-sur-Sarthe. Celui qui n'arrive qu'en 4e position dans les intentions de vote derrière Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire a désigné l'ancien chef de l'État comme son principal adversaire. Nicolas Sarkozy cible des attaques de François Fillon qui s'est bien gardé de le nommer directement, Christine Monclin.
Personne n'a rassemblé autant de monde.
Un TGV spécial estampillé « Je roule pour Fillon », le très chic parc du château de Sablé-sur-Sarthe pour le décor. François Fillon avait mis les moyens pour servir son premier vrai discours de campagne. Et c'est une charge contre Nicolas Sarkozy qu'a livré son ex-premier ministre. Le vrai gaulliste de cette primaire, c'est lui.
Être gaulliste, c'est d'abord avoir une haute idée de la politique et de la France. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Discours revu et corrigé jusqu'au dernier moment avec Gérard Longuet et quelques conseillers. Il fallait se montrer dramatique et personnel, jouer l'humilité contre l'arrogance.
Je ne suis pas un surhomme, je suis un homme sûr de ses convictions. Je ne suis pas un bonimenteur. Moi, je veux rompre avec cette politique de l'illusion. Je veux faire.
Faire pour la France, c'est son slogan, patriote, libéral, moral. Fillon déroule sa généalogie France profonde et ses racines chrétiennes. Plus que d'identité, il veut parler d'unité et de souveraineté nationale. L'islam doit être mis au pas.
Je veux imposer aux musulmans de France les règles communes qu'ont acceptées souvent après de longs combats les chrétiens et les juifs. C'est une condition non négociable.
Et d'autres propositions musclées, la fin des cours de langue dites d'origine à l'école ou la réécriture des programmes d'histoire dans le sens d'un récit national. Sa France, dit-il aussi, sera celle de l'emploi pour tous les jeunes, objectif être la première puissance européenne dans 10 ans.
Cela passe par des transformations économiques et sociales, j'en ai parlé. Mais ça passe aussi par un réarmement moral.
La formule est forte mais hasardeuse. Réarmement moral, concept de retour à droite, étant à l'origine le nom d'un mouvement évangéliste américain.
Et de son côté, la majorité gouvernementale se rassemble à Colomiers en Haute-Garonne. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Après l'annulation de l'université d'été du PS à Nantes, ce meeting de rentrée se fera en présence de Manuel Valls et de plusieurs membres de son gouvernement sur le thème de la République, un thème choisi après l'attentat de Nice, mais qui prendra une autre résonance après un été marqué par les polémiques autour du burkini, un sujet qui divise aussi le gouvernement. Et dans ce contexte où la place de l'islam en France est en question, une affaire devenue virale sur les réseaux sociaux a fait réagir le gouvernement. Un restaurateur est accusé d'avoir insulté puis chassé samedi soir deux femmes musulmanes, deux femmes voilées, de son établissement à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. L'une des deux clientes aurait filmé la scène avant de la mettre en ligne. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour discrimination à caractère racial. La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a également saisi le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Gilles Clavreul.
J'appelle au discernement et au calme, car c'est comme ça qu'on doit traiter les choses. Après l'attentat de Nice, il y a eu des craintes tout à fait légitimes d'ailleurs qu'on s'attaque à nouveau aux Français de confession musulmane. Heureusement, d'après les chiffres qui me sont communiqués par le ministère de l'Intérieur, il y a eu quelques actes supplémentaires, mais il n'y a pas eu de flambée de violence. Et en dépit des polémiques qui, une fois encore, sont exacerbées par tous les entrepreneurs identitaires qui y ont un intérêt idéologique évident, je remarque que la société française dans son ensemble réagit avec beaucoup plus de maturité et de sagesse que beaucoup. C'est la voix de la République et donc j'encourage toutes les parties prenantes à faire preuve du même calme, du même discernement que la grande majorité des Français.
Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, relance aujourd'hui le chantier d'un islam mieux ancré dans les valeurs de la République. Une journée de consultation sur l'islam de France se tient ce lundi, place Beauvau. Et ce matin, dans les pages de La Croix, Bernard Cazeneuve réaffirme le choix de l'exécutif de ne pas légiférer sur le burkini. Une telle loi serait anticonstitutionnelle et de nature à susciter des antagonismes, précise le ministre de l'Intérieur. Ils veulent contraindre l'industriel Lactalis à mieux payer le lait de ses producteurs. Les syndicats agricoles étendent leurs actions de la Mayenne à tout le territoire ce lundi, faute d'accord sur un prix. Possible manifestation autour de différents sites de Lactalis, étiquetage des produits du géant laitier en supermarché.
Direction le nord de la Syrie à présent, où des dizaines de personnes ont été tuées lors de bombardements de l'armée turque.
Ankara évoque la mort de combattants kurdes. Une ONG parle, elle, de victimes civiles. Mais dans un discours prononcé hier à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, le président Erdogan a affiché sa détermination face aux milices kurdes et face au groupe État islamique. La correspondance à Istanbul d'Alexandre Billette.
5 jours après le début de l'opération bouclier de l'Euphrate, le président turc a surtout évoqué la Syrie pour répéter que l'offensive turque ne visait pas uniquement l'État islamique, mais également les forces kurdes, qui sont aux yeux du président Erdogan des terroristes à l'instar de Daesh et dont la présence à la frontière turque est inacceptable. Lorsque l'opération a été lancée mercredi, le premier ministre Binali Yildirim avait évoqué une offensive rapide. Cependant, la résistance des forces kurdes depuis 72 heures semble plus importante que prévu, avec plusieurs conséquences potentielles. Une opération peut être plus longue, peut être également plus de victimes que prévu côté turc. Sans compter les conséquences à l'intérieur du pays, déjà le PKK a multiplié les attaques ces derniers jours et pourrait passer à la vitesse supérieure en guise de rétorsion.
Alexandre Billette à Istanbul pour France Culture.
7h09 sur France Culture, la suite du journal. Catherine Dutu, une explosion cette nuit à Bruxelles.
Et plus précisément à l'Institut de criminologie de la capitale belge. Pas de victimes, c'est ce que rapporte le radiodiffuseur RTL. au Gabon, chaque camp proclame sa victoire à l'élection présidentielle. Les partisans du président sortant, Ali Bongo, et ceux de son adversaire, Jean Ping, s'accusent aussi mutuellement de fraude électorale. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant demain, mais en France, le Parti socialiste indique, je cite, qu'une alternance serait signe de bonne santé démocratique. Européens et Américains sont-ils sur le point d'abandonner le projet de traité TTIP, le traité de libre-échange transatlantique, également connu sous l'acronyme de TAFTA, à en croire Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand et ministre de l'économie d'Angela Merkel, les négociations ont de facto échoué. L'analyse de Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture.
Les prédictions de Sigmar Gabriel sont un clou de plus pour le cercueil du futur traité transatlantique. Depuis le début, l'avenir a eu du mal à être souriant pour le TTIP, acronyme de son nom anglais, traité pour l'investissement et le commerce. Il a été rapidement voué aux gémonies par une frange importante de l'opinion européenne, mais l'attitude des négociateurs eux-mêmes a rendu chaotique le chemin des négociations. D'abord, les difficultés pour les 28 États membres de s'accorder sur le mandat de négociation à donner à la Commission européenne, par exemple sur la question de l'exception culturelle. Il y a eu ensuite l'attitude des négociateurs, avec en particulier une violente dénonciation par les députés européens de l'impossibilité de consulter les documents de négociation, autrement qu'aux conditions drastiques fixées par les États-Unis. Et désormais, le manque de progrès tangible, la perspective de la fin du mandat de Barack Obama, qui avait préconisé ce traité transatlantique, les incertitudes commerciales liées au Brexit, apparaissent comme autant d'éléments annonciateurs d'un échec des négociations du TTIP, comme lors des deux précédentes tentatives de traité transatlantique.
Plus d'un millier de personnes ont été secourues hier dans le canal de la Sicile alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe en bateau. On ignore encore le pays d'origine de ces migrants sauvés en mer dans 11 opérations de sauvetage distinctes. Au Brésil, elle va elle-même assurer sa défense dans un Sénat transformé en tribunal. Dilma Rousseff, la présidente suspendue de ses fonctions, s'exprimera aujourd'hui pour la dernière audience de son procès en destitution. Un procès susceptible de mettre fin à son second mandat et à 13 ans de gouvernement de gauche au Brésil. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics afin d'être réélue en 2014. Le temps de ce lundi 29 août, nuageux avec des averses attendues en montagne. Les températures sont en baisse cet après-midi. Il fera entre 22 et 26 degrés sur la moitié nord du pays, de 24 à 28 en général au sud et jusqu'à 34 degrés dans le Languedoc et en Provence, Guillaume Erner.